nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le conteur disparaît au Maroc, regrettait l'un des intervenants de l'émission de Françoise Esteb, Images du cinéma marocain. Il ajoutait que le cinéaste devait alors remplir la tâche du conteur. Des scénaristes, des cinéastes, des critiques, pas de producteurs. La notion de producteur n'existait alors pas au Maroc, s'exprimait à la fin des années 80 lorsque fut diffusée cette émission de témoignages et d'extraits de films. Un panorama, une sorte de photographie animée, du cinéma d'auteur marocain, au départ à rayonnement confidentiel. Des tragicomédies, des instruments d'investigation sincère de la société, des histoires où se mêlent, se confrontent, la tradition et la réalité. Première diffusion sur France Culture le 11 septembre 1987.
Un pays qui ne produit pas d'images est menacé de famine. Moumen Smihi.
Oui, dans le sens où la production des images aujourd'hui, c'est de plus en plus un fait de civilisation, donc une question de vie ou de mort par rapport à l'idée très importante aujourd'hui de l'identité culturelle, des régions géographiques, géographico-culturelles. Qui ne produiraient pas des images d'elles-mêmes pour elles-mêmes, sont un peu sous la menace d'une désaxation, d'un décentrement et forcément d'une destruction de leur image de soi et donc de leur culture.
Images du cinéma marocain par Françoise Esteb et Christine Berlamont. Ahmed El Manouni,
Farida Belyazid,
Hamid Benani,
Nabil Lakhlou,
Mohamed Aboulwakar,
Jilali Fakhati,
Mohamed Regab,
Latif Lakhlou,
Mohamed Smihi, Sohel Ben Barka,
Tayeb Sadiki, Mustafa Derkawi,
Mohamed Tazi.
Malheureusement, le cinéma arabe a eu très rapidement comme modèle les cinémas occidentaux. Personnellement, du côté du Maroc, je perçois comme ça une nécessité de création, une nécessité d'avancer une région géographico-culturelle, justement, et qui est celle du monde arabe, qui est une puissance ou réelle ou potentielle. Le monde arabe est le lieu d'une richesse culturelle très très importante. Et il me semble que c'est au niveau de l'espace arabe général comme ça qu'il y aurait un monde des images et des sons, une production images et sons qui devrait aujourd'hui s'aligner face, à côté, par rapport à toutes les images du monde.
Avec Farida Belyazid, Hamid Benani, Sohel Ben Barka, Mustafa Derkawi, Jilali Fahati, Noureddine Saïl, Tayeb Sadiki, Mohamed Smihi, Mohamed Tazi.
La production cinématographique marocaine dans son ensemble compte une cinquantaine de films. Alors est-ce que l'on peut parler d'un cinéma marocain? Est-ce que l'on peut dégager certaines tendances de ce cinéma?
Il serait tout à fait présomptueux de commencer déjà à dégager des tendances.
Noureddine Saïl, scénariste, critique, directeur de la programmation et de la production à la radio-télévision marocaine.
56 ou 57 films, c'est... Disons, c'est un corpus, c'est une enveloppe qui représenterait dans un pays qui a une industrie cinématographique, qui représenterait une sous-tendance d'une tendance. Cela dit, s'il faut absolument classer ce que les cinéastes marocains produisent, on pourrait effectivement parler de quelques grandes lignes qui se rencontrent de toutes les façons dans la même préoccupation majeure qui est celle de parler de façon valable ou de façon qui laisse parfois à désirer, de la réalité marocaine. Donc, il y a cette préoccupation qu'on retrouve un peu chez tous les cinéastes marocains, de parler du Maroc.
Il est évident que le cinéma marocain ne sera jamais une industrie dans le sens où on l'entend.
Taïeb Sadiki.
C'est un cinéma d'auteur. Les créateurs imaginent eux-mêmes leurs films, écrivent leurs films, leurs rêves, essayent de le réaliser, ainsi de suite. C'est plus qu'un cinéma d'auteur, c'est vraiment un cinéma, au départ, à rayonnement confidentiel, mais disons que c'est un bonhomme qui s'exprime. Il est même obligé d'être producteur parce que, ne serait-ce que parce qu'il n'a pas les moyens d'avoir toute une équipe pour faire tout le travail. Donc le point commun le plus important qui me semble dans le cinéma marocain, c'est que tous les cinéastes marocains veulent parler de leur propre société et jeter un œil critique sur leur société. Disons qu'ils veulent tous faire un cinéma utile à leur société. Bien sûr, ce n'est qu'un stade, après ils vont le dépasser. Et il me semble aussi important que tous les cinéastes, réellement tous, à une ou deux exceptions près, ont fait des films très contestataires. Ce ne sont pas des films de slogans, mais ils ne sont pas tendres avec leurs gouvernants, avec leur société, avec leur structure, disons, établie.
À l'intérieur de cette préoccupation, il y aurait au moins, disons, deux grandes vexions. Une vexion qui cherche à tout prix d'abord à raconter, à faire un cinéma narratif, à se lier le plus près possible avec le spectateur, à penser le film comme étant destiné à être vu par un public, ce qui est, disons, ce qui est le postulat le plus légitime de tout créateur cinématographique. Et cette vexion est quand même assez dominante et c'est tout à fait justifié.
Djilali Ferhati.
1978, Brèche dans le mur. 1981, Poupée de roseau.
Sur un scénario de Farid Abliazid, on a donc monté cette opération. Bon, le sujet d'emblée m'avait plu, par, disons, son côté humain.
Djilali Ferhati.
Et la simplicité dans l'écriture, qui en fait s'est avérée être bénéfique pour moi en ce qui concerne l'image, parce que ça m'a permis de faire une suite de tableaux tout en prenant mon temps. Et dans le, il y a tout un monde de femmes que j'ai pu découvrir amplement, et le choix, disons, dans tout ce qui est gestus, dans tout le côté, disons, couleur des vêtements, il y avait tout cela, et puis évidemment le calvaire que subissaient ces femmes. Puis, en l'occurrence Aïcha. Bon, succinctement, Aïcha, adolescente, est promise à son cousin, qui est soldat dans l'armée espagnole. Pourquoi soldat dans l'armée espagnole? Tout simplement parce que, comme l'histoire se déroule à Tanger, on a voulu évoquer un peu l'historique de cette ville par le biais de cette présence espagnole. Vers l'âge de 13 ans, quand elle a ses premières règles, le mariage est aussitôt consommé. C'est-à-dire qu'elle est là, éjectée dans ce monde d'adultes, sans prendre conscience de ce qui lui arrive, puisque l'impression qu'elle joue à la poupée. Bon, donc elle a trois gosses, son mari meurt. Et c'est là qu'intervient un personnage qu'on ne pourra pas qualifier d'odieux, parce qu'il est ce qu'il est, c'est la tradition qu'il a faite. C'est une tradition peut-être odieuse, mais ce personnage apparaît, son beau-frère qui est marié, qui a des enfants, et qui veut la prendre comme deuxième épouse. Elle refuse. Et lui, il se sent fort de son bon droit, en tant qu'homme dans la société arabo-musulmane. Et il a un seul recours, c'est lorsqu'elle trouve un travail, il la surveille. Il n'arrête pas de la surveiller pour essayer de trouver un grief contre elle. Effectivement, il le trouve, ce grief, parce qu'elle elle a une liaison avec le gardien de la banque où elle travaille. Et c'est là qu'il porte plainte, pour lui enlever les enfants. Évidemment, le tribunal, le jugement, lui est favorable. Et cette femme n'a plus la garde de ses enfants qui reviennent automatiquement à la belle-mère. Donc voilà l'histoire. Bon, comme l'avait dit un critique en France, il ne manquait plus que le cancer à Aïcha. Donc elle a tout vécu dans tout ce qui est de plus effroyable pour un être humain. Toute cette avanie, toute cette humiliation qu'elle traîne depuis, je dirais pas sa tendre enfance, mais depuis cet âge de la puberté jusqu'à qu'elle soit mère et plus tard dans cette société qui est régie et dirigée par l'homme.
Mohamed Tazi.
1981, Le Grand Voyage, scénario de Noureddine Sahil.
D'Agadir à Tanger. Un espace métaphorique. La montée vers le nord, ou l'itinéraire de la chute d'un routier solitaire qui va jusqu'au bout de sa destinée, dans un réel où la seule morale est celle de la survie et du sauf-qui-peut généralisé.
C'est ce personnage qui part du sud du Maroc où il y a beaucoup plus de pratiques de la langue berbère, la langue soussi.
Mohamed Tazi.
Et plus il monte vers le nord, c'est la montée sud-nord, et plus il est submergé par la langue qu'il ne pratique pas très bien et qui donne cette timidité et cette impossibilité de communiquer d'une façon très courante et qui fait de ce personnage un naïf. Mais c'est beaucoup plus le thème de la dépossession. Vous avez la route, la radio, le camion, les cafés qui sont les moyens de communication, mais ça reste dans une solitude.
On a l'impression qu'il est totalement passif et que sa vie se déroule un peu à l'extérieur de lui-même, comme vu à travers les vitres de son camion. Les personnages qu'il rencontre sont des personnages qui vont traverser sa vie de façon épisodique et on a l'impression qu'il n'est pas du tout maître de sa propre existence.
Bon, mais il faudrait se référer un peu à l'environnement religieux. Si vous voulez, déjà dans l'esprit de l'islam, c'est cette résignation aux événements qui arrivent, qu'il subit en quelque sorte, comme si c'était, écrit, que son parcours, il doit le poursuivre donc du sud vers le nord, et il ne peut rien changer au cours de l'histoire. Et il se trouve, ballotté d'un événement à un autre jusqu'à être dépossédé complètement à la fin du film.
Si le héros occidental type hélas est Rambo, nous on est l'antithèse.
Noureddin Sahil.
Bon, il se trouve que ce que les auteurs marocains trouvent comme fiction à donner au spectateur pour attirer son attention est une fiction qui l'interpelle dans ce qu'il a de plus faible. Dans ses faiblesses, disons. C'est curieusement une stratégie inconsciente qui a certainement circulé parmi les cinéastes marocains. Bon, la fin, penser la fin des choses, la défaite. Il y a peut-être une lecture qui conviendrait de faire et qui est celle d'un réel qui est peut-être trop fort par rapport aux efforts comme ça désordonnés des individus pour essayer de le maîtriser.
D'abord, il y a une chose importante en tant que cinéaste, c'est de pouvoir raconter une histoire.
Mohamed Tazi.
Et raconter une histoire ne veut pas dire que ce qui m'intéresse le plus, c'est le côté narratif de raconter l'histoire de ce personnage, mais sans partir avec des idées qu'il faut mettre un côté symbolique de ce côté-là, qu'il faudrait exprimer un autre symbole par là.
Vous avez donc voulu raconter une histoire et vous avez choisi pour raconter cette histoire une forme narrative relativement classique.
Oui, c'est-à-dire pour approcher un peu de la narration, c'est d'utiliser d'abord un langage simple, facile, Et je ne vois pas la nécessité de compliquer et la narration et le langage cinématographique. C'est pour ça qu'il y a une certaine simplicité de langage cinématographique dans ce film.
Un mâle monte sur le dos d'une tortue femelle, un dit glisse, un dit tombe, un dit recommence, un dit monte sur le dos d'une tortue femelle, un dit glisse, un dit tombe.
Donc pour moi, je pars avec l'idée de raconter une histoire et je me réfère un peu à Sem Ben Osman qui a dit un jour que le conteur dans la civilisation arabe disparaît et que le cinéaste doit absolument remplir cette tâche de conteur.
Et il y aurait une autre version qui serait plus, alors en termes, disons, de critique ou de théorie, qui serait un peu plus textualiste.
Noureddin Saïl.
Qui s'interroge en même temps sur la narrativité. Au moment où on fait un film, on essaie en même temps d'y inscrire à l'intérieur, en abîme, des interrogations sur le film. Ça obéit à toute une préoccupation majeure qui traverse, depuis un bon bout de temps d'ailleurs, le champ du cinéma à l'échelle mondiale. Et le Maroc étant un gros consommateur de films, il est certain que les répercussions de toutes les recherches qui se font par-ci, par-là, dans l'univers, finissent nécessairement par avoir une influence sur les cinéastes marocains. Vous avez parlé de Derkaoui, effectivement. Il représente le cas le plus patent de cette orientation.
Mustapha Derkaoui.
1975, de quelques événements sans signification. Film qui sera interdit par la censure. 1982, les beaux jours de Scheherazade. 1985, titre provisoire. Directeur de la photographie, Abdelkarim Derkaoui.
À un moment donné, j'en avais assez de voir le cinéma aller dans un sens figé, etc. Mais à la réflexion, je me suis dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Le cinéma doit chercher d'autres horizons, d'autres modes d'expression, et puis surtout d'autres objectifs.
Mustapha Derkaoui.
C'est-à-dire que c'était au moment où je pensais réellement que le cinéma pouvait contribuer à la transformation d'un tas de choses. Transformation dans l'esprit, dans même le mécanisme social comme élément promoteur d'une vision culturelle nouvelle, etc. Je pensais cela, j'en étais vraiment convaincu. Et surtout, je voulais que le cinéma devienne un instrument d'investigation sincère. Et puis, surtout, quand on s'attelle à, disons, à une tâche qui consiste à parler de l'homme, etc. Parler de l'homme d'une manière sérieuse. Sérieuse. Je ne suis pas sérieux moi-même, mais je pense que on n'a pas trop simplifié cette vision que l'homme doit avoir de lui-même, des rapports qu'il entretient avec les autres, etc. Il y avait des choses que je refusais catégoriquement. Et moi, je déteste cette forme comme ça, apparente, même d'autocensure.
Vos films font une part beaucoup plus large à la psychologie que les films habituels du cinéma marocain. Ce sont des films plus intérieurs, plus intimistes peut-être.
Oui. Quand je parle de moi-même, de ce qui m'intéresse le plus immédiatement, j'ai un peu plus de liberté. Et je peux traiter plus amplement, je peux travailler un peu plus à l'aise quand je parle d'un groupuscule tel que, disons, une équipe de réalisation, de mise en scène, confrontée à ce qui l'entoure, à ce qui entoure le dispositif. Et quand je fais ce revirement, quand je fais tourner l'objectif vers le dispositif lui-même, il y a cet espoir en moi, c'est qu'en travaillant avec le détail, j'atteins la fiction. C'est-à-dire que du microcosme qu'est le dispositif, j'espère atteindre, disons, un cercle un peu plus large. Et dans titre provisoire, ben, je voulais clore cette réflexion, en quelque sorte, sur le cinéma, sur le rapport que le cinéma entretient avec le réel. C'était un exercice de style. Et je voulais essayer de trouver une forme qui convienne à ce genre de discours où le rêve et le réel sont mêlés. J'ai cette manie de travailler avec des gens qui n'ont jamais fait du cinéma, surtout au niveau du jeu, de la distribution. Parce que là, je puise cette spontanéité qui m'est nécessaire, sans laquelle je trouve que le cinéma reste un mode d'expression très figé.
Votre caméra est toujours en mouvement.
Moi, le mouvement m'intéresse énormément dans le cinéma. Dans quelques événements, vous avez vu, c'était en quelque sorte le pari, le gros plan. Et le mouvement, c'était ça le film, c'est vrai. Et puis, je déteste les moments statiques. Je déteste qu'il y ait un moment de silence qui n'est pas justifié, qui ne joue pas, qui ne fonctionne pas. Je déteste qu'il y ait un moment de stagnation qui, en plus...
Mehdi, dont Cher Guy, arrive à tenir un peu les deux bouts de la chaîne. Le bout de la narration, qui est assez précise, assez rigoureuse chez lui, et en même temps, il ne laisse pas de côté quelques interrogations sur la fonction même de ce qu'il est en train de produire avec des images et des sons.
Mohamed Smihi.
1975, El Chergi ou Le silence violent. 1982, 44 ou Les récits de la nuit.
Ces films, on peut les lire à plusieurs niveaux. Alors le Chergi, c'est l'histoire à la fois d'une femme, de la condition féminine vue à travers le destin d'une femme. Et en même temps, il y a une source historique très, très forte dans ce film, puisque le film se situe à Tanger, pendant la période internationale. Et vous montrez, parallèlement à l'histoire de cette femme exploitée, meurtrie, bafouée, vous montrez l'histoire d'un peuple lui-même sous protectorat, lui-même dépossédé de soi.
Oui, absolument. Si vous voulez, ce qui me retenait, c'est d'articuler un regard, un espace, en donnant aux deux des étoilements de sens, aurait dit Roland Barthes, justement. Si vous voulez, le regard, c'est effectivement de la féminité.
Mohamed Smihi.
C'est l'histoire d'une femme qui circule dans la ville pour un but déterminé. Et ce parcours lui donne l'occasion, me donne à moi, comme étant en scène aussi, l'occasion d'un rapport à l'espace de la ville de Tanger. Et c'est cette mise en relation là, qui a permis de parler à la fois de la condition féminine, de la colonisation, de l'espace meurtri, de Tanger aussi comme mythologie. Oui, j'avais aussi été intéressé par en souvenir du cinéma japonais. La convocation du rituel dans le film, j'avais le souci, si vous voulez, de savoir comment une écriture cinématographique arabe pourrait mettre à profit le rituel et même ritualiser un peu le cinéma. Pas du tout dans une visée folklorique, ça n'a rien à voir, mais... le souci simplement de s'inscrire dans une tradition, dans une profondeur culturelle. Encore une fois, tradition, pas du tout au sens conservateur, mais au sens comme ça d'histoire de la culture, d'histoire d'une identité. Alors, je ne sais pas, par exemple, je me souviens que j'avais utilisé une idée de scénario comme ça, Aïcha dans sa déambulation dans la ville, finit par être l'objet d'un rituel qui consiste à ce qu'on lui verse des pièces de monnaie sur la tête, c'est dans une grotte au bord de la mer. C'est même peut-être un rituel qui n'a pas été donné avec une grande précision ethnographique dans le film, parce que ce n'était pas ces directions-là qui m'intéressaient, mais le souvenir d'une scène très très forte dans un film d'Eisenstein, Ivan le Terrible, et qui était l'intronisation d'Ivan, où il y avait cette même idée de verser des sacs pleins de pièces de monnaie sur la tête. L'effet des pièces sur la tête, leur bruit, leur vitesse devant le visage, etc. Tout ça, ce n'est pas seulement du rituel, c'est aussi le passage à l'écriture. Et c'est ça, si vous voulez, où pour moi c'était important. L'acte d'écriture, qui est un acte comme ça de souveraineté de l'imaginaire, finalement. On ne peut pas y échapper, c'est impossible d'y échapper.
Taïeb Sadiqi, tout en essayant à son habitude de faire ludique avec Zeft, ne manque pas toujours d'interroger comme ça la fonction du cinéma, et de façon extrêmement astucieuse, je trouve, qui plaît d'ailleurs énormément au public.
...1984, Zeft, du célèbre homme de théâtre marocain Taïeb Sadiqi. Il reprend sur le mode de la fable théâtrale les grands thèmes du cinéma marocain. Dépossession, féodalité, héros malchanceux écrasés par le destin. Zeft est la tragicomédie de Bouaza, un paysan qui est dépouillé à la fois par la tradition et la modernité. On lui impose d'abord l'édification du tombeau d'un supposé saint homme sur son lopin de terre qui devient un lieu de pèlerinage. Puis le passage d'une autoroute qui achève de le chasser de chez lui. Un humour noir ravageur n'épargne personne.
Je voulais d'abord parler de l'ici et l'ailleurs. Je voulais parler d'un pays du tiers-monde, pas forcément le Maroc. Un pays du tiers-monde qui connaît les problèmes que connaissent tous les pays du tiers-monde.
Taïeb Sadiqi.
Aussi bien la fascination qu'exerce l'autre, et dans le cas d'espèce l'Occident, que une espèce de réalité, et dans le film un petit peu schématisée, une réalité quelquefois même caricaturée. Je voulais parler aussi de cette société, de cette fascination que nous avons et que tout pays du tiers-monde a pour l'Occident. Je voulais aussi parler de problèmes inhérents à cette fascination, à savoir l'éducation. Quand je parle d'une école mixte, il va sans dire que dans le film, ce ne sont pas des garçons et des filles. La mixité, c'est plutôt deux langues qui s'enchevêtrent. Parler de la langue, parler de la fable de la fontaine, le laboureur et ses enfants qui devient le laboureur et ses ouledou, c'est un petit peu une caricature d'une expression qui est tout à fait courante dans les pays arabo-francophones. Je voulais aussi parler de problèmes de technologie, ou ce que la technologie risque d'apporter comme bien et aussi comme mal. Je voulais parler de la mutation d'une société, une société au départ rurale, qui se transforme en une société prolétarienne. Donc, problème de misère, parce qu'en fin de compte, on troque une misère contre une autre misère. Même si la deuxième misère a l'air d'être plus, je ne dis pas moderne, mais disons plus contemporaine. Je voulais parler de tourisme, je voulais un petit peu parler de tout. Bref, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de peindre ou de mettre en scène ou de filmer des gens qui sont aptères. Et ça, c'est l'idée première en tant que metteur en scène. L'idée première, c'est de montrer des gens à qui il manque toujours quelque chose. Le principal personnage, en l'occurrence ce brave cultivateur qui avait un tout petit lopin de terre, le malheur a fait que ce lopin de terre se trouve être au milieu d'une tribu, donc tout le monde s'est mis d'accord pour qu'on enterre cette espèce de saint chez lui, et de là découlent tous ses malheurs. Ce personnage-là, qui est un personnage qui est totalement abstrait parce qu'il n'a pas de discours, il est incapable de réagir. Ou alors, quand il réagit, c'est toujours trop tard. Il est seul à mener un combat. Dans le film, tous les autres personnages manquent de quelque chose, aussi bien physiquement. On voit des culs de chatte, on voit des gens à qui il manque des dents, on voit des gens qui manquent de discours, on voit des gens qui sont coupés de tout. Par exemple, ceux qui représentent l'autorité centrale ne bénéficient que d'un petit transistor qui n'arrive pas à communiquer avec l'autre, avec le pouvoir central. Donc même le pouvoir est totalement coupé, si vous voulez, de son cerveau. J'ai essayé de filmer ça à la manière un petit peu italienne, ou disons méditerranéenne, parce que j'ai essayé d'avoir beaucoup de dérision et je souhaitais avoir beaucoup d'humour pour faire ce genre d'opération. Un humour quelquefois grinçant, un humour quelquefois noir. Mais la dérision, si vous voulez, a été pour moi le moteur essentiel pour écrire et pour filmer. Bien sûr, les gens ne se sentent pas toujours de plein pied avec un humour noir. Mais il ne faut pas voir en ce film, si vous voulez, quelque chose de réaliste. C'est un film, c'est une espèce de fable, en fin de compte. Moi, je ne voulais pas faire un film réaliste. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à aucun moment, on ne voit réellement des choses très marocaines dans le film. Mon film se passe dans un pays du tiers-monde. Imaginez, oui, oui. À aucun moment, vous ne voyez les couleurs réelles du Maroc, les costumes réels du Maroc. C'est pas ça, du tout. Il y a beaucoup de choses dans le film qui n'ont strictement rien à voir avec le Maroc. Je souhaitais que les gens comprennent que c'est un pays du tiers-monde pour dire que c'est un problème qui est commun à tous les pays du tiers-monde, qui n'est pas spécifiquement marocain ou spécifiquement local, comme on peut dire avec mépris. Je crois que la dérision est une manière d'écrire, de voir les choses, qui est tout à fait importante et intéressante en tout cas. Je suis un petit peu iconoclaste, cela va sans dire. Je ne respecte pas, tout en étant très respectueux des traditions, mais quand je parle de problèmes, si vous voulez, j'y mêle toujours un petit peu de dérision. Dans mon travail, que cela soit au théâtre, ou à la télévision ou au cinéma. Bon, ça, c'est ma manière de voir. Je préfère, si vous voulez, toujours présenter les choses ainsi, parce que je suis persuadé que nos pays, nos peuples, et bien sûr d'autres peuples plus évolués, peuvent être plus sensibles à la dérision des choses qu'à la chose elle-même. Je crois profondément... si vous voulez, sur un plan d'expression, je crois que le ridicule paye, si vous voulez. Je crois aussi qu'au lieu de montrer une chose, montrer l'idée d'une chose, c'est très très fort.
Donc il y a une transe, il y a une certaine forme de folie dans ce film, par moment. C'est peut-être ce côté irréaliste sur lequel vous insistez.
Oui, j'insiste un petit peu sur le côté irréaliste parce que j'essaie de concrétiser mon propre rêve au théâtre et aussi au cinéma. J'essaie d'aller un peu plus loin et même faire une provocation pour le cinéma.
Et vous ne choquez pas les spectateurs lorsque vous abordez justement la tradition de cette façon-là ?
J'espère les choquer. Je ne veux pas faire... J'estime qu'une œuvre d'art doit être avant tout une œuvre dérangeante. Si l'œuvre ne dérange pas, à quoi elle sert? Je ne fais pas un petit film à l'eau de rose pour rassurer les gens. J'estime que c'est très bien que dans l'œuvre, il y ait des choses choquantes. De toute façon, je considère que toute action artistique se doit d'avoir un côté un peu diabolique. S'il n'y a pas la main de Satan, il n'y a pas d'œuvre artistique en ce qui me concerne.
La ilaha illallah. Mohammed Rasulallah. Waili, waili,
waili, waili. Dans les critiques ou les présentations qui sont faites de votre film, on insiste beaucoup sur l'aspect burlesque de votre film. Moi, il me semble que ce qui domine, c'est la dimension tragique du film.
Eh ben, merci d'avoir dit ça. C'est-à-dire que, bien sûr, j'ai essayé, même dans les scènes les plus, disons, les plus tragiques, de les traiter en scènes burlesques. Le burlesque m'a toujours intéressé. Les situations extrêmes m'ont toujours intéressé, mais vous savez, il n'y a pas beaucoup de... Entre le tragique et le burlesque, il y a un tout petit pas qu'on peut franchir. Tout le film repose sur ce travail de voix, un travail polyphonique. Pourquoi j'ai opté pour cela? D'abord parce que j'ai repris des thèmes anciens, par exemple les prières rogatoires, par exemple les appels dans le sanctuaire, qui sont des chants anciens, ou alors adaptés de chants anciens, et qu'on interprète uniquement avec des voix. Et j'ai trouvé qu'on peut arriver à des moments ésotériques, parce qu'il y a de l'ésotérisme, avec des voix polyphoniques, et je crois que l'effet est assez intéressant.
Le cinéma marocain est un cinéma, encore une fois, très, très personnel et très individuel.
Farida Belyazid, scénariste, réalisatrice, vient de tourner son premier long-métrage.
Chaque personne assure le plus souvent sa propre production. Donc c'est vraiment un cinéma de pionnier. Il n'y a pas de production. Il n'y a pas de circuit, disons. Même la Secret Distribution est complètement branchée, disons, sur les circuits de distribution des multinationales. Donc il n'y a pas... Je veux dire, les gens qui font du cinéma sont des gens un peu bizarres, qui se démarquent. Hein. On nous regarde toujours comme des gens un peu fêlés, quoi, de vouloir faire des choses impossibles. C'est vraiment un cinéma de passion. Et je crois que c'est un cinéma de mise au point où chacun essaie de faire le point sur sa propre expérience. Ce n'est pas du tout un cinéma qui est pensé commercialement. On ne saurait pas le faire de toute façon.
Le problème pour moi et pour les cinéastes se pose beaucoup plus.
Noureddine Saïl.
Et c'est la vérité de cette interrogation que nous nous posons ici au Maroc. Se pose beaucoup plus des questions de avoir rapport avec le public ou essayer de l'ignorer ou parfois décider de l'ignorer.
Ça, c'est le problème en général de tous les cinémas d'auteur.
Pas de tous les cinémas d'auteur. C'est le problème, certes, des cinémas d'auteur dans des pays centraux, dans des pays à forte production. Oui, c'est des problèmes de cinéma d'auteur. C'est le problème de Jean-Marie Straub, par exemple, en France. Mais chez nous, c'est un problème non pas des auteurs, mais le problème de tous les réalisateurs. Bon, ici... Que ça soit un film plutôt ardu, de recherche, type Mustapha Drkaoui, titre provisoire, ou un film qui essaie justement d'allier à la préoccupation de la recherche cinématographique l'intérêt que le film porte au public, et donc qu'il sollicite aussi du public, type Poupée de roseau de Gilles Farhati, type Le Grand Voyage de Abderrahman Tazi, type même le 44 ou les récits de la nuit de Smihi, bon, qui essaie de trouver cette synthèse. Ou alors, que ce soit des films à orientation strictement et totalement commerciale, genre Les larmes du regret de Hassan Moufti ou Silence sans interdit de Abdullah Masbahi, qui sont du commerce pur et ils ont tout à fait le droit de faire ça. Globalement, tout ce monde-là affrontera les problèmes que seul
affrontera en France quelqu'un comme Jean-Marie Straub ou... Enfin, le petit public, quoi. Quelqu'un qui s'adresse à une cible très précise.
Il n'y a pas de structure de travail adéquate, il n'y a pas d'aide, cela va sans dire.
Taïeb Sadiki.
Il y a une distribution terrifiante. Les distributeurs sont des escrocs. Ce sont des gens à traduire devant des tribunaux et qui, en plus, se trouvent être les exploitants de salles. Donc, il n'y a rien à attendre de ce côté-là. Totalement. Rien. Il ne faut pas non plus que les cinéastes s'imaginent qu'on va leur mâcher le travail et que c'est facile. C'est à eux de se défendre. Il faut détaxer le cinéma. Nous sommes arrivés à le faire au théâtre. Je ne vois pas pourquoi on ne l'obtiendrait pas au cinéma. Il faut arriver à convaincre les gens. Mais il faut que les cinéastes puissent quand même avoir une association ou une espèce de club où ils se mettraient enfin d'accord pour revendiquer. Pour le moment, ils sont un petit peu perdus. Il y a trop de chambres. Il y a peu de cinéastes. Il y a beaucoup plus de chambres que de cinéastes.
D'abord, la notion de producteur n'existe pas ici au Maroc. Il n'y a pas de producteur de films. Il n'y a que des cinéastes qui s'improvisent en producteurs, en distributeurs et des fois en exploitants. Mais la notion de producteur n'existe pas. Et encore moins de distributeur.
Mohamed Tazi.
Quand je parle de public marocain, il est assez limité parce qu'il n'a pas aussi la possibilité de voir les films marocains. Nous avons eu des cas où des films ont été retirés des salles de spectacle en plein succès, c'est-à-dire que la salle est comble, mais le distributeur décide de retirer le film parce qu'il n'a pas beaucoup de gains, parce qu'il doit calculer au pourcentage avec le producteur, alors qu'il achète des films de l'étranger où il gagne énormément d'argent, beaucoup plus que les films marocains. Donc le public marocain, à part quelques villes, disons Casablanca, Rabat, Marrakech et Tanger des fois, c'est très rare de voir des films marocains distribués.
Il y a quand même, à l'échelle du monde, des pôles de production cinématographique.
Noureddin Saïl.
Les marchés se défendent comme ils peuvent face à un autre qui essaie toujours de les occuper. C'est le cas de tous les pays arabes face aux productions américaines, bien entendu, européennes, égyptiennes et indiennes. Et je pense que pour un pays comme le Maroc, et c'est valable pour la Tunisie, c'est valable pour l'Algérie, pour tous les pays qui vivent finalement les mêmes problèmes, je pense que le bon choix à faire, ce qu'il conviendrait de faire, c'est ce que j'appelle de la production régionale, de la fiction régionale, des films régionaux, produire pour le public marocain. On me dira, mais bien entendu, mais enfin là c'est encore un plus grand rêve, il n'y a même pas de public pour ça. Je dis qu'il peut y avoir un public pour ça, si l'État intervient pour qu'il y ait un quota nécessaire de films marocains dans les salles marocaines. Je ne vois pas pourquoi nous seuls, dans le monde entier, allons postuler un libéralisme qui ne contrôle plus rien. Un libéralisme où, bon, bah oui, vous faites ce que vous voulez, vous importez ce que vous voulez, vous voulez pas de taxes, ne payez pas de taxes, mais enfin, ça n'existe nulle part. Les États-Unis, c'est le marché le plus fermé du monde, et pourtant, c'est le modèle, c'est le surmoi du libéralisme. Et pourtant, il n'y a pas d'importation de films. Alors, je suis pour une production qui est une production stricte, régionale, et quand je dis régionale, on peut élargir le champ commercial du Maroc vers l'Algérie, la Tunisie, et puis recevoir un peu plus de production algérienne et tunisienne, créer peut-être dans cette matrice maghrébine, une esquisse de ce que pourra être la fiction maghrébine demain. Et produire pas cher, et ça, soyons très clairs. Quand je dis des fictions locales, un cinéma strictement régional, ça veut dire qu'il faut travailler avec des petits budgets, avoir la garantie de sortir dans les salles, créer donc un artisanat qui évoluera encore plus, créer un corps de métier qui existera de façon beaucoup plus affermie. Et l'un dans l'autre, il y aura comme ça une sorte d'enclenchement d'un phénomène qui créera ce qu'on appelle justement un territoire de production. Bah autrement, c'est trop facile. Autrement, on veut ressembler à la grande production américaine ou française. On peut le faire une fois tous les 5 ans, une grande superproduction qui coûtera 10, 20 ou 30 milliards.
Je veux le maximum de discrétion et que personne ne puisse s'échapper. Est-ce que c'est clair? Secteur Sud, vous me recevez? Secteur Sud.
On vous reçoit 5 sur 5, capitaine.
Bien, restez sur cette fréquence. Ok, terminé. « Centrale, vous me recevez? Passez-moi Kreis.
Sohail Ben Barka, réalisateur à part dans le cinéma marocain, il manifeste la volonté d'accéder à une carrière internationale.
1973, les mille et une mains. 1974, la guerre du pétrole n'aura pas lieu. Film interdit par la censure. 1977, Noces de sang. 1983, Amok. Film tourné en coproduction avec des moyens importants et une nombreuse figuration, à la différence de la plupart des films marocains. Les mille et une mains et Amok ont obtenu des prix internationaux. Souheil Ben Barka est actuellement directeur du centre cinématographique marocain.
Vous savez, je fonctionne tellement à coup de sentiments qu'il m'est difficile. Je ne suis pas du tout un cartésien, donc je suis beaucoup plus, je suis spontané.
Donc vous fonctionnez à coup de sentiments, c'est-à-dire vous partez d'une révolte, d'une passion de...
Je peux commencer à écrire un scénario et quelques temps après, un événement arrive qui me semble plus intéressant, je laisse tomber l'autre et puis je fonce sur cet argument nouveau. Il m'est arrivé plusieurs fois en cours d'écriture d'un scénario de changer et faire autre chose. Et ça a été le cas de Mille et une mains. Je voulais faire une version de l'Othello de Shakespeare à ma manière avant de faire Mille et une mains. Et puis, quelques temps avant, je m'étais installé, j'ai été acheter un tapis dans une usine. Quand j'ai vu comment ça se passait, bon, en rentrant, je voyais qu'on mettait à la porte une petite fille. Ça m'a un peu touché, j'ai demandé le pourquoi. Et par la suite, on m'a expliqué qu'est-ce qui s'est passé. Et je me suis informé, je me suis documenté sur les tapisseries, sur les conditions des petites filles. J'ai trouvé ça tellement intéressant que je me suis dit, tiens, voilà un sujet prioritaire à mon hôtel. Ça a été aussi le cas de la guerre du pétrole. J'étais invité au Festival de Cannes. Et puis des amis m'ont amené voir, c'est la première fois que je voyais un casino d'ailleurs. Je ne connaissais un casino qu'au cinéma, j'ai été voir comment ça fonctionne. Et puis là, j'ai vu un grand monsieur du golf claquer dans l'espace de quelques minutes 30 à 40 millions de dollars. Bon, ça m'a un peu tellement scandalisé que j'ai dit, tiens, et pourtant, voilà des pays qui crient qu'on va aider le tiers-monde, on aide des autres pays arabes qui sont en difficulté, et voilà que des 30-40 millions de dollars disparaissent en l'espace de quelques secondes. Alors que cet argent pouvait servir à construire chez nous des hôpitaux, des écoles, enfin tout, quoi. Surtout, bon, du coup, je me suis dit, voilà quelque chose de prioritaire qu'il faut tout de suite dénoncer, et voilà. Noces de sang aussi, ça, c'est tout à fait la même chose. J'allais à la marche verte et puis je me suis arrêté dans un petit village à côté de Tafraout et j'ai appris que les étrangers étaient non grata dans ce village. Pourquoi? Parce que la veille, un étranger avait disparu avec une jeune mariée et du coup le drame de l'Orcam était revenu tout de suite en tête. Par la suite, en m'informant davantage, il y avait de sérieux problèmes de la condition féminine. Comprenez, donc voilà, je fonctionne toujours ainsi. C'est le cas aussi de l'Afrique du Sud. Je ne me serais pas retrouvé dans un avion sud-africain où, une fois qu'on avait décollé, on m'a changé de place. J'étais avec Pasolini à l'époque, dont j'étais l'assistant. On allait à Madagascar et on avait pris un vol de la South African Airlines. Et après 25 minutes de décollage de Rome, on nous sépare. Bon, monsieur, vous êtes un arabe, vous êtes un peu... comment on appelle ça, de seconde zone, basanée, donc vous ne pouvez pas rester avec un blanc à côté d'un blanc. Et il y avait avec nous aussi un jeune cinéaste malgache, qui avait encore la peau un peu plus sombre que la mienne, qu'ils ont recalé en troisième position. On s'est retrouvés, du coup, tous séparés, cloisonnés, chacun selon la couleur de sa peau.
J'arrive!
Amok est une coproduction.
Oui, c'est une coproduction, oui, entre trois pays. Le Maroc, le Sénégal et la Guinée. Vous savez, moi je ne crois qu'en la coproduction. Hein. Tous mes films ont été coproduits. Mes quatre films sont des films de coproduction. Donc, nous sommes dans des pays à économie très faible. Nous avons très peu de débouchés sur les marchés internationaux. Notre seule force, notre seule possibilité un jour de s'en sortir, c'est de coproduire avec les autres. Autrement, on fera toujours un petit cinéma local qui sera vu dans certaines villes à peine. Nous sommes en ce moment en plein contact avec nos amis et frères des autres pays, d'Afrique noire et d'Afrique du Nord, pour essayer de faire aboutir justement les coproductions.
La fiction type Bembarka, elle, c'est une fiction quand même qui s'est toujours pensée comme exportation. Quand on parle production, on dit on va coproduire, mais c'est pas sérieux du tout. Moi, je trouve que c'est pas sérieux.
Noureddine Saïl.
La coproduction, c'est, disons, un complément nécessaire d'une industrie existante ou en voie d'existence. Si on ne joue que la carte de la coproduction, on risque, et c'est ça le plus grave, de ne jamais assister à l'éclosion d'une production nationale. Jamais.
Si nous devons suivre la loi du commerce pur, on ne fera jamais de film chez nous. Parce que de toutes les manières, un film national ne peut pas être rentable sur le plan national. Ce n'est pas possible. C'est tout, nous sommes conscients de cela. Quelle que soit l'aide, même si nous détaxons, quelle que soit l'aide que l'État attribuera à un film marocain, en aucune façon il ne peut être amorti sur le marché national. De toutes les manières. Aucun cinéaste ne dit « je fais un film pour moi-même et ma famille », ça n'existe pas. L'ambition de chaque cinéaste, c'est de faire un film qui soit vu aussi bien au Japon qu'à Melbourne, qu'à Casablanca. En tout cas, personnellement, c'est mon point de vue. Je n'ai jamais un seul jour pensé faire un film pour seulement le public marocain. C'est de la folie. C'est pas possible.
En 1970, Weshma de Hamid Ben Hani marque la naissance du cinéma national marocain.
Pour la première fois, un cinéaste expérimente une forme d'expression originale qui s'éloigne des clichés du cinéma occidental et puise directement ses sources dans l'imaginaire collectif marocain. Weshma, Trace, est l'histoire d'un orphelin que l'éducation islamique rigide de son père adoptif conduira une fois adolescent vers l'inadaptation, la délinquance et la mort.
Un artiste et un cinéaste doit assumer une certaine violence dans une société justement qui a besoin en quelque sorte de changer ou qui envoie des changements. Les changements sont des petites violences qui se font.
Pour 1970, c'était un film qui était un film d'avant-garde.
Oui, c'est-à-dire que ce film, au début, n'a pas été compris. C'était une chose nouvelle.
Hamid Benani.
Pour la première fois, on avait une image, réelle. Enfin, le réel est très relatif au niveau du cinéma. Mais on avait une image qui n'est pas édulcorée du Maroc. Puis on avait une sorte de discours sur l'évolution du Maroc. Mais il était surprenant par le côté plastique, par l'esthétique. Mais sur le plan des idées, je pense que les idées véhiculées par le film étaient des idées courantes chez les intellectuels, chez les artistes.
Y a-t-il un autre film dans la production marocaine, même un film beaucoup plus récent, où la distance prise par rapport à la société soit aussi nettement marquée?
De films, non, que je sache, non. Même aujourd'hui, je veux dire. Même aujourd'hui. Maintenant, le film s'inscrit, il est revendiqué par toute une partie de la jeunesse et il devient un patrimoine alors que il s'inscrivait de façon marginale par rapport à une certaine tradition, mais c'est maintenant devenu un classique en quelque sorte. L'histoire de Messaoud Enfant, c'est un enfant adopté qui ne peut pas s'intégrer à une société patriarcale qui est une société de l'avoir. Je veux dire que dans une société patriarcale, pour être quelque chose, pour être reconnu, il faut avoir. Donc quelqu'un qui n'a pas
qui ne possède pas n'est pas. C'est un être marginal, purement accessoire, qui n'a pas d'existence pour ça. Alors le problème de Mesrine, c'est là, c'est que n'étant rien, comment peut-il se reconnaître dans l'enfant que veut faire de lui son père adoptif? C'est là un conflit. C'est ça le véritable moteur du conflit entre le père et le fils. C'est que l'un veut un fils et l'autre ne peut pas être un fils. Parce qu'il n'est rien. Cette paternité lui pèse et il n'en veut pas. Et il n'en a pas besoin. Il se révolte contre elle parce qu'elle lui est imposée. Il n'y a pas de rapport d'égalité. Dans la première partie, quand il était enfant, il essayait de compenser ce manque d'être par ces petites cérémonies d'appropriation du réel. Ces cérémonies magiques un peu. Son trésor. Alors, dans la deuxième partie, disons qu'il a fait l'apprentissage, disons, du bien et du mal, en quelque sorte. Mais c'est toujours à contre-temps. Il est toujours à contre-temps parce qu'il ne s'intègre pas à un groupe qu'il fréquente tout le temps. Il est toujours en train de poursuivre une morale désuète qui est complètement dépassée par le milieu dans lequel il vit. Donc, il reste toujours un peu décalé, toujours un peu marginal.
Et alors, d'engrenage en engrenage, de chute en chute, il va arriver à commettre un meurtre.
Oui, c'est ça, c'est l'engrenage, parce que comme il est en porte-à-faux par rapport aux situations, par rapport au groupe, il finit donc par exercer la violence qu'il a toujours tenté depuis son jeune âge, depuis qu'il était enfant. N'oublions pas qu'il a pris cette arme, qu'il a dérobé cette arme. Et puis, brusquement, il y a un passage à l'acte qui se fait et il tue.
À partir de ce moment-là, on peut considérer que son destin est scellé. Il s'en va en moto et il se tue.
Tout nous arrive par la volonté de Dieu. Pauvre Mesrine, ton destin était écrit. Tu l'as subi sans solliciter la grâce divine. Tu n'as pas glorifié Dieu pour ce qu'il t'a donné, tu l'as payé de ta vie. Que Dieu nous accorde sa miséricorde. Éloigne de nous les feux de l'enfer et les maléfices de Satan. Le film s'inscrit contre une certaine morale traditionnelle.
On part toujours à Buñuel. Est-ce que c'est une comparaison que vous faites vôtre ou pas?
Oui, c'est une comparaison dans laquelle il y a du vrai, dans cette comparaison. Par exemple, la pratique du retournement des choses, le destin, tout ça.
L'utilisation des symboles aussi.
L'utilisation des symboles.